L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné.
Vous parlez de médias,
vous avez convoqué. Vous avez compris, il fonctionne bien.
Entre les parents de ces
policiers-là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Oui, bonjour, vous êtes dans une nouvelle émission de Tapage, une émission sur les violences judiciaires. Aujourd'hui, on reçoit Zeynep pour parler de la justice en Turquie. On va faire un peu le tour de... On va aborder la question de la répression des militants et militantes, des différentes oppositions au régime. Voilà, est-ce que Zeynep, tu veux dire quelques mots de présentation?
Oui, bonjour à tous. Et ben moi, je m'appelle Zeynep. Je suis née et j'ai grandi en Turquie. Après, je vis depuis plusieurs années en France. Et je suis trop contente de vous parler aujourd'hui de la situation en Turquie parce que c'est quand même, malgré la proximité à la fois géographique et avec des milliers de personnes d'origine turque qui vivent en France, c'est pas tellement un pays où on connaît bien.
Ouais. Alors, en tout cas, merci d'être venu. Nous, modestement, on ne va pas te demander de nous faire une histoire de la Turquie répressive des 50 dernières années, parce que je crois que c'est beaucoup d'émissions qu'il faudrait qu'on fasse. On se rendra peut-être compte aussi que c'est loin et proche la Turquie, notamment au niveau de la justice, et que c'est aussi une de ces raisons-là qui font que c'est important de parler de ces formes de répression judiciaire. Mais il faut quand même qu'on fasse un petit détour historique.
Ouais.
Et si ça te va, on peut commencer cette émission par revenir sur le contexte des années 80, après le troisième coup d'État militaire.
Tout à fait. Et dans l'histoire de l'État turc, il y a eu trois coups d'État militaire. D'abord en 1960, ensuite en 1971 et le dernier coup d'État réussi, c'est en 80. Donc c'est-à-dire c'est les militaires qui prennent le pouvoir, décrètent l'état d'urgence, tous les droits sont suspendus, il y a des milliers de personnes qui entrent en prison, il y a la torture, une répression assez féroce, pas uniquement contre les personnes militantes de différentes organisations de la gauche ou de la gauche radicale, mais notamment contre les syndicalistes, des personnes défenseuses des droits humains, toute une pinte de la population est poursuivie, contrôlée, etc. Et il y a un retour quelques années après le coup d'État en 1980, un retour à l'État, on va dire, entre guillemets, normal. Et donc, du coup, l'état d'urgence s'arrête et on appelle ça le retour à la démocratie, les élections, etc. Donc, après le retour à la normale, en 83, il y a néanmoins plusieurs articles du code pénal sont là pour poursuivre des personnes qui atteint à la sûreté d'État, qui cherchent à affaiblir l'autorité de l'État, etc.
J'avais une question moi aussi, ouais. Parce que tu parlais de retour à la normale, mais si j'ai bien compris, ce retour à la normale concerne pas tout à fait ni tous les endroits ni toutes les personnes, vu que les cours de sûreté ont été maintenus. Donc les cours de sûreté, ce sont des tribunaux d'exception en quelque sorte auxquels participent un voire plusieurs, je pense, militaires. D'autant plus en parler un petit peu là que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans une future émission qu'on fera sur l'Algérie coloniale où les cours de sûreté ont été aussi massivement utilisés comme outil de répression. Donc le retour à la normale, ça veut dire que peut-être que les cours de sûreté ne sont plus utilisés pour la plus grande partie de la population, mais pour les opposants politiques de différentes sortes, à la fois les militants et militantes kurdes, à la fois différents types d'opposition dont tu parlais, les syndicats, les communistes, ça reste quelque chose qui est encore utilisé jusqu'à la fin des années 90, voire le début des années 2000.
Mmh, tout à fait. Oui, en fait, ça prend... J'ai parlé de le retour à l'état normal, entre guillemets, parce que c'était les termes qui ont été utilisés par les militaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un gouvernement militaire, mais un gouvernement civil. Ouais. C'était dans ce sens-là que j'ai utilisé le terme. Et donc, bien sûr, le gouvernement civil de l'État turc, c'est toujours un gouvernement colonial, quand on pense justement au Kurdistan, qui est occupé par l'État turc dès sa création en 1924. La Cour de sûreté dont tu as parlé fait partie, mais pas que, en fait, toutes les lois antiterroristes et la lutte contre le terrorisme, ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme, concernent principalement en Turquie les militants et les militantes kurdes, donc toute personne qui défend par exemple les droits culturels, le droit d'instruction en langue maternelle, enfin ça peut aller aussi bien sûr à le droit à l'autodétermination pendant l'indépendance pendant des années, en tout cas 80-90, qui sont aussi réprimés par le cours de sûreté joue ce rôle-là, mais une fois que le cours de sûreté n'existe plus à partir des années 2000, et certain nombre de lois continuent à faire exactement le même travail.
Ouais, tu parlais du début des années 2000 parce qu'il va y avoir un nouveau mouvement là qui va s'enclencher.
Mmh. Ouais, parce que il faut peut-être aussi rappeler que la première loi antiterroriste, c'est en 1991. Qui entre en vigueur, et en 1991, donc du coup il y a un certain nombre de lois et des articles qui étaient dans le code pénal basculent vers, mais tous ces articles ne sont pas supprimés, certains restent et d'autres viennent trouver leur place dans la loi antiterroriste. Et au début des années 2000, c'est l'Union européenne accepte la demande de l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Et donc il y a un certain nombre de recommandations pour que la Turquie et les lois en turc soient conformes aux droits européens. Et donc en 2003, il y a pas mal de changements. Et en même temps, ce moment-là coïncide avec l'arrivée 2003, c'est aussi l'arrivée du gouvernement, l'arrivée de Erdogan, donc actuel président au pouvoir.
Actuel, futur,
voilà, exactement.
Immortel.
Donc maintenant, ça fait plus que 20 ans, donc en 2003-2024, voilà.
Et effectivement, le processus d'adhésion à l'Union européenne requiert plusieurs choses, requiert la fin de la peine de mort, requiert aussi la fin des cours de sûreté, parce qu'il n'est pas question pour la Cour européenne qu'il y ait des militaires qui participent à des tribunaux qui jugent des civils. Enfin, un certain nombre de choses. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que de fait, dans ce moment-là, la Turquie montre pas de blanche. C'est un moment où la Turquie désire intégrer l'Union européenne et montre pas de blanche, donc supprime effectivement la peine de mort, supprime les cours de sûreté, mais comme tu l'expliques, les remplace immédiatement par des choses qui sont aussi efficaces du point de vue de la répression, enfin une banale cour d'assises, ou alors un ensemble de lois antiterroristes très suffisamment vagues pour englober énormément de choses et de gens, ça peut tout à fait suffire pour la répression.
Tout à fait. De toute façon, quand on regarde la loi antiterroriste, même aujourd'hui encore, il y a une continuité, et qu'est-ce qui est défini, qu'est-ce qui permet de caractériser le terrorisme, qui est accusé du terrorisme, etc. Les définitions sont extrêmement vagues. Par exemple, il faut prendre juste un exemple, l'apologie du terrorisme. C'est l'apologie du terrorisme peut concerner vraiment énormément de déclarations et d'actes très, très, très variés et se souvent utilisés pour réprimer la liberté d'expression. Et il y a énormément de journalistes, par exemple, en Turquie. La Turquie, c'est un des pays où il y a... Enfin, je pense qu'on est au top, premier pays dans le monde où, en termes de nombre de journalistes qui se trouvent en prison. Et donc, pour, par exemple, avec cet article qui condamne l'apologie du terrorisme.
Alors, et de toute façon, mais ça, je pense que les gens qui nous écoutent le savent, mais on disait tout à l'heure, oui, la Turquie, c'est loin et c'est proche en même temps, sans que ça atteigne ce niveau très important de répression. On sait tous, et on en a tous entendu parler, que depuis le mois d'octobre 2023, mais même avant, depuis les attentats en 2014-2015, il y a une démultiplication en France des poursuites de militants et de militantes pour les délits d'apologie du terrorisme qui existent et qui, je crois, en plus, est sensiblement le même, techniquement, en tout cas dans les textes, que ce qui est prévu par le droit répressif turc.
Oui, il est tout aussi flou et peu défini en France qu'il ne l'est en Turquie, je sais. Comme tu dis, il y a peu de différence.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, je pense que sur ce qu'on a dit quand on a préparé ici l'émission, il y a sur le papier, il y a en termes des lois qui condamnent le terrorisme et qui poursuivent les personnes. Il n'y a pas tellement de, enfin, il n'y a pas énormément de différence. Après, c'est la question de le caractère massif et le cadre d'utilisation qui change. Mais par exemple, article 2 de la loi antiterroriste, donc article 1, c'est ce qui permet de caractériser le terrorisme pour dire que toute forme d'infraction, donc c'est toute forme d'infraction. Déjà, en fait, il n'y a pas une infraction qui est particulièrement qui tombe intrinsèquement dans le terrorisme. En fait, ça peut être toute forme d'infraction pour affaiblir l'autorité de l'État, enfin, ce que je disais à tout à l'heure, donc qui atteindent à l'unité indivisible du pays et de la nation. Enfin, c'est des choses quand même extrêmement floues, ou essayer de changer les caractéristiques de la République telles qu'ils sont indiquées par la Constitution. Donc ça peut aller vraiment, enfin voilà, c'est extrêmement vague. Ça, c'est l'article 1 pour dire ce qui permet de caractériser. Et le deuxième article dit que donc, toute personne qui sont seules ou en bande organisée commis pareil une infraction ou même sans commettre une infraction peuvent être membres d'une organisation terroriste. Donc on peut être membre d'une organisation sans commettre d'infraction et donc du coup jugé pour le terrorisme. Et enfin, même sans être membre d'une organisation. Et toute personne qui condamne une infraction au nom d'une organisation terroriste.
Oh.
Vous voyez, donc, voilà, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une liste des organisations terroristes, notamment voilà, PKK fait partie des organisations terroristes, mais pas que, maintenant on en a vraiment énormément. Et si on pense qu'une infraction est faite au nom d'eux, donc on fait un rapprochement d'une manière ou d'une autre avec une organisation, on peut être poursuivi pour être membre pour le terrorisme.
Ouais, si je vole n'importe quoi dans un supermarché en disant que je le fais pour le PKK, ça sera un vol terroriste, du coup.
Oui, non, mais ça c'est évident parce qu'il y a déjà une infraction. Mais on n'a même pas, dans certaines situations, on n'a même pas d'infraction ou quoi que ce soit. Et par exemple, peut-être que je peux prendre un exemple concret d'un ami à moi qui se trouve en exil depuis presque une dizaine d'années. Et en fait, lui, il était membre d'une organisation de jeunesse quand il est entré à l'université. Il commence à militer comme...
Une organisation de jeunesse légale
Oui, voilà, une organisation de jeunesse légale, une organisation de la gauche radicale, on va dire, et une organisation socialiste. On dit qu'en socialiste en Turquie, ça ne veut pas dire socialiste.
Ça veut dire radical.
Ça veut dire radical, ouais. Okay.
C'est bien de préciser.
Et ouais, c'est bien de préciser, parce que, ouais. Et en fait, voilà, il a participé, comme d'autres collègues étudiants et étudiantes, aux déclarations de 1er mai. Ils ont tracté pour, voilà, critiquer le gouvernement, pour défendre certains nombres de droits humains, pour avoir aussi des revendications, voilà, pour dire que le capitalisme, c'est mal, il faut que ça s'arrête. Voilà, ce genre de contenu politique, on va dire. Et en fait, il a été arrêté en 2009. Bon, il a été déjà arrêté plusieurs fois, hein, dans les cadres de ses actions et tout à fait légales. Mais en 2009, il a été envoyé en prison et qu'il a fait 5 mois et demi, 6 mois. Et dans un dossier d'instruction où il y avait 15 de ses amis. Et dans le dossier, enfin, pour être membre, donc le chef d'accusation, c'est être membre d'une organisation terroriste, lui et ses 15 amis, étudiants et étudiantes. Et donc, dans le dossier donc d'accusation, il y a uniquement des photos d'une manifestation légale auquel il est participé, ce genre de choses.
Du coup, ça veut dire que en faisant partie d'une organisation légale, en participant à une manifestation légale dans laquelle tu distribues légalement des tracts, tu peux quand même être accusé de participation à une organisation terroriste.
Exactement, tout à fait. Parce que, par exemple, ce qui était là dit, les déclarations et le contenu politique et des revendications politiques diffusées au cours de ces actions sont en parallèle avec la ligne politique d'une organisation terroriste. Donc, ils ont fait les rapprochements. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, ce truc de « on en deux ». Donc, en fait, vous dites qu'il n'y a absolument aucune d'autre signe, mais ça ressemble. Ça ressemble.
Ça ressemble.
Voilà, exactement. Ça ressemble. Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, si là, je parle de... Je dis qu'il faut libérer Abdullah Öcalan, donc le leader kurde qui est emprisonné depuis 25 ans maintenant sur un île prison. Je dis, il faut libérer Öcalan. C'est la seule personne qui est apte aujourd'hui à mener des négociations avec l'État turc. Il faut que l'État turc arrête les bombardements extra-frontières en Syrie. Voilà, je peux dire un certain nombre de choses. Et on peut me accuser de terrorisme en disant, c'est exactement la situation qui s'est passée pour ce copain. Les revendications qu'elle porte
sont les mêmes terroriste.
Tout à fait. Donc, et si on peut en plus ajouter dans le dossier un coup de fil que j'ai eu pour dire bonne fête à une personne qui est lui-même été poursuivie pour terrorisme. Donc voilà, en fait, le dossier est constitué. On parle de ce genre de situation. Et cet ami-là, il a condamné à 6 ans et 3 mois. 6 ans et 3 mois, c'est le tarif pour être membre d'organisation terroriste.
Et tu nous disais, là, encore, en préparant cette émission, tu nous disais que du coup, il avait quitté la Turquie. Du coup, moi, ce qui nous a fait immédiatement poser une question, ça veut dire qu'il n'était pas en détention provisoire au moment de son procès. Est-ce qu'il a comparu à son procès? Ou est-ce qu'il a pas assisté à son procès? Est-ce qu'il est parti avant?
En fait, il a fait, comme j'ai dit, 6 mois de prison,
okay,
en attendant le premier procès,
okay,
avant la première fois qu'il passe devant devant le juge. Et là, le juge poursuit le procès, mais il est libéré sous condition.
Okay.
En attendant la suite du procès. Donc le procès est en cours, mais il n'est pas en prison, quoi.
D'accord.
Voilà. Et à ce moment-là, il a décidé, parce qu'il avait vraiment des fortes chances que enfin son oui. ses avocates ont dit que il y a des fortes chances que ça aboutisse enfin et qu'il soit condamné. Donc du coup il a acquitté pas tout de suite quand même parce qu'il y a eu en 2013 il est parti, il est venu en France et en 2014 il a justement la Cour de cassation a confirmé la première condamnation de 6 ans et 3 mois pour être membre de l'organisation terroriste. Après, le procès a suivi un peu son cours quand lui, il était, et ses camarades aussi, parce que je pense que sauf une qui était en prison, tous les autres sont partis de Turquie, et a suivi un petit peu son on appelle ça, enfin son cheminement quoi. Et là, il a eu des, parce que en Turquie, après la Cour de cassation, il y a la possibilité depuis 2012, parce qu'avant c'était pas possible, depuis 2012, les personnes, les individus peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour protester, enfin pour faire appel. Avant, il n'y avait pas cette possibilité-là. Depuis 2012, ça existe. Et il y a énormément de personnes. Enfin, j'ai regardé un peu les chiffres, c'est genre juste délirant, des centaines de milliers de personnes. Donc, on saisit le cours constitutionnel. Et finalement, en 2024, donc 10 ans après son départ en exil, et la Cour de cassation, enfin le cours de constitutionnel a décidé que tout ça relève de la liberté d'expression. Donc, il est acquitté. Donc tout ça pour ça quoi.
Mais du coup, pour revenir un petit peu à la chronologie là qu'on avait esquissée tout à l'heure, si j'ai bien compris, la personne dont tu parles, elle est poursuivie pour des faits qui se seraient produits dans les années 2010 quoi, grosso modo, c'est ça. Donc c'est cette époque où la Turquie essaye de donner des gages de fréquentabilité à l'Union européenne, etc. Donc, c'est-à-dire que même à cette époque-là, alors même qu'ils veulent rentrer dans l'Union, alors même qu'on supprime donc la Cour de sûreté de l'État pour se mettre en conformité avec la Cour européenne des droits de l'homme, ces condamnations de terrorisme par assimilation, elles ont toujours cours en réalité.
Oui, tout à fait.
On discutait aussi de la question de la détention provisoire. Pour nous, c'est un peu ce qui est un peu de frappant en France, c'est que quelqu'un qui serait accusé de une personne accusée de terrorisme en France jamais ne serait laissé, enfin vraisemblablement, ne serait pas laissé si facilement si facilement libre et n'aurait pas si facilement l'occasion de quitter le pays. Mm-hmm. Tu nous disais à l'occasion de la préparation que sans doute ça relevait peut-être d'un choix volontaire du pouvoir de laisser partir.
Aussi, oui. Je pense qu'il y a deux choses. À la fois, de toute façon, la taille, en fait, la massivité, je pense qu'il faut prendre en compte de la répression politique. Donc, le nombre de personnes qui sont quand même poursuivies, le nombre de dossiers d'enquêtes qui sont ouverts pour terrorisme est quand même énorme. Et le nombre de personnes qui sont aussi en prison, et les prisons sont pleines à craquer. Bon, on va revenir sur la question des prisons, mais voilà, je pense qu'il y a tous ces facteurs, parce que c'est quand même, en nombre, c'est quand même incomparable avec la France. Par contre, là, on disait qu'il y a quand même certaines continuités en termes de loi, mais par contre, en termes de la taille de la répression et la toile de contrôle et de répression, il y a quand même une très grande différence. Donc, qui fait que je pense le nombre de, enfin le fait de laisser en liberté entre guillemets et en sous contrôle judiciaire des personnes pendant les procès s'explique un peu pour cette raison. Et aussi bien sûr je pense qu'il y a peut-être la volonté aussi de les laisser enfin de pousser aussi à l'exil d'autres.
Et maintenant, Zeynep, tu nous as proposé un petit peu de musique, donc on va en écouter le premier morceau. Dis-nous en plus.
D'accord, c'est une chanson en kurde qui s'appelle Sarildan Jiane, donc ça veut dire que la vie est résistance.
C'est parti.
Et résistance à la vie.
Gurtie azadie de zindane de wakishire ki birindar gu da kafasa khu halnae jare hez da khu hata khu ugo
serhildan jiyane, berhudan jiyane.
On est toujours sur Canal Sud 92.2 et c'est Tapage, et aujourd'hui on reçoit Zeynep qui nous parle de la répression judiciaire en Turquie. Donc tu nous parlais de cette situation d'un proche, une situation un petit peu invraisemblable, qu'il avait poussé à l'exil. Il avait été condamné à 6 ans et 3 mois d'incarcération pour finalement 10 ans plus tard qu'on lui dise qu'il est acquitté. Mais finalement, a priori pour le pouvoir turc, mission accomplie quand même. Ce qui va revenir en Turquie.
Tout à fait. Non. Je pense que le but est déjà presque atteint, parce que là, vraiment, l'enjeu, et même quand je discutais avec cet ami, mais avec d'autres personnes récemment, et l'enjeu n'est pas tellement arrivé à la condamnation. Donc la condamnation, c'est une forme de la répression politique, mais toute l'instruction, tout le processus, le contrôle, les procès qui sont en cours sur qui concernent des milliers et des centaines de milliers de personnes. Donc, je pense que tout ça fait partie un peu d'état de répression en Turquie.
Tu avais des chiffres d'ailleurs.
Oui, j'ai les chiffres. Je peux leur donner. Mais oui, en fait, c'est le but, je pense, qui est recherché, c'est vraiment empêcher les personnes de contester contre le pouvoir d'État, contester la gestion gouvernementale. Donc, créer une ambiance de terreur et de répression, de contrôle, qui fait que les gens, ils se dissuadent, ils sont dissuadés de faire la politique, de contester, d'être à la rue, de faire des déclarations, d'écrire, dire les choses, de se rassembler pour contester, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment ça, parce que cet ami, en fait, c'est une situation tout à fait ordinaire pour la Turquie. Ça a l'air un peu ubuesque, mais en fait, ça concerne énormément de personnes, ce genre de condamnation, à la fin, 10 ans après, qu'on leur dit « Ah bah finalement, c'était pas ça ». Et des fois, on leur dit même pas « Finalement, c'était pas ça », et pour des déclarations publiques et les recours... Enfin voilà, on peut être condamné à des années de peine. Je peux donner des chiffres aussi, si vous voulez.
En tout cas, sur les prisonniers, là, je les ai devant les yeux. Les tout derniers chiffres de novembre dernier que j'ai trouvés. Donc 371 587 prisonniers et prisonnières, ce qui fait un taux d'incarcération de 335 personnes sur 100 000. Ce qui fait un taux d'incarcération de 435 personnes sur 100 000. À titre de comparaison, là, en ce moment, la France, c'est 115 personnes sur 100 000. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup plus. Et d'ailleurs, sur ces prisonniers et prisonnières, pour revenir à la question de l'enfermement provisoire, il n'y a que, entre guillemets, 15% de prévenus. Encore une fois, à titre de comparaison, en France, c'est entre 30 et 33% de prévenus dans les prisons.
Sur les chiffres de poursuites, parce que ce qu'on a vu, ce que tu disais tout à l'heure, ça nous fait penser, nous, à ce qui a pu être dénoncé, ce qui est dénoncé régulièrement à l'occasion des mouvements sociaux, mais surtout, là, le dernier en date, celui contre la réforme des retraites, où en fait, la police arrête massivement des gens, tout en sachant qu'on n'a rien à leur reprocher. Avec pour effet que ces gens vont faire 24 heures, 48 heures de garde à vue et donc ne pas aller à la manifestation. Et aussi une répression judiciaire, ben peut-être qu'ils iront pas, policière, pardon, peut-être qu'ils iront pas à la manifestation d'après. Et ça a été dénoncé, y compris par des autorités qui sont loin d'être des gauchistes, hein, défenseurs des droits, etc. Qui vont dire, c'est des arrestations finalement préventives, sans fondement. Sans fondement, c'est pareil, tout est question de flou dans les définitions. Un policier peut vous arrêter s'il estime qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que vous allez faire quelque chose de mal, mais il peut toujours le faire et vous relâcher 24 heures ou 48 heures après, parce que comme il n'y aura pas de procès, de toute façon, cette privation de liberté, elle ne sera jamais sanctionnée. Donc là aussi, on voit ces techniques, alors qu'ils ne sont pas dans les mêmes échelles, hein, bien sûr, mais il faut quand même avoir à l'esprit que ces techniques-là ont les mêes effets et existent aussi en France.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, et je parlais des chiffres pour montrer justement que le seul enjeu n'est pas les condamnations, mais créer vraiment une ambiance de répression et de contrôle généralisé. Et par exemple, pour l'article 6 et 7 de la loi antiterroriste, donc là, c'est qui concerne l'apologie du terrorisme. Donc c'est un article qui est beaucoup utilisé contre la liberté d'expression, et notamment, c'est un des rares articles pour lesquels la Turquie a été condamnée auprès plusieurs fois auprès de cours européens de droits de l'homme.
La France aussi.
Voilà. Et pour deux articles 6 et 7, par exemple pour l'année 2018, qui était quand même l'année où il y a l'état d'exception qui est encore en vigueur en Turquie après la tentative de coup d'état en 2016. Donc on va peut-être revenir sur cette période, parce que c'est quand même une période durant laquelle le durcissement du régime d'Erdogan a pris des tournures invraisemblables. C'est vraiment durci. Et pour l'année 2018, il y avait pour 46 000 enquêtes, investigations, il y a eu 10 000 procès. Pour l'année 2020, il y a eu 26 000 investigations pour l'apologie du terrorisme, 6 500 procès. Pour un autre article qui est là, c'est article 314 du code pénal, ça c'est pour vraiment être membre d'une organisation terroriste, là c'est encore une autre échelle. Et là, les investigations, donc les enquêtes, parce qu'on appelle ça comme ça en français. 2016, 150 000 personnes. Donc, mise en examen. 2017, 547 000 personnes mises en examen. 2018, 440 000. 2019, 310 000 personnes. 2020, 210 000 personnes mises en examen. Pour
314.
Pour membre d'organisation, voilà, pour être membre d'organisation terroriste. Donc, voilà l'ampleur de...
En 2020, ça fait presque 1% de la population.
Oui. Donc, en fait, après le tentative de coup d'État, vraiment, le régime antiterroriste s'est étendu à l'ensemble de la population.
Mais
il faut dire ça, je pense,
coup.
Parce que vraiment, il y a une extension de gouvernance par... antiterrorisme, je ne sais pas comment dire ça, est devenu vraiment massif.
Est-ce que tu peux nous redonner quelques éléments, comme dit Jonathan, sur ce qui s'est passé en 2016?
En fait, ce qui s'est passé en 2016, en juillet 2016, il y a eu un coup d'État militaire, donc une tentative, pardon, coup d'État. Il y a eu une tentative de coup d'État militaire, et donc, le tentative est échoué, et par contre, il y a l'état d'urgence qui est décrété. Donc, l'état d'urgence qui est décrété, qui est pour 3 mois, et après, cet état d'urgence a conduit plusieurs reprises jusqu'à juillet 2018. Donc, pendant 2 ans, de 2016 jusqu'à 2018, la Turquie a été gérée dans l'ensemble du territoire, pas uniquement Kurdistan, l'ensemble du territoire turc, gérée en état d'urgence. Ensuite, en 2018, l'état d'urgence est arrêté, mais par contre, les décrets qui s'est entré en vigueur pendant l'état d'urgence, ont prolongé pour 3 ans. Donc, en gros, on est allé de 2016 jusqu'à 2021, donc 5 ans de gouvernance, où justement, ces chiffres dont je viens de donner concernent voilà, cette période-là. Donc, pendant cette période, il y a eu plus de 130 000 personnes ont été limogées. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont licencié de leur fonction. Et ils ont l'interdiction d'exercer à vie. En fait, ils ne peuvent plus exercer pendant toute leur vie aucune fonction étatique, enfin, en lien avec l'État. Donc, quand j'ai dit les personnes, c'est les salariés, tous les personnels, tous les fonctionnaires de toutes les institutions publiques. Ça va de tous les ministères jusqu'à les hôpitaux, les universités, les institutrices, les chauffeurs des mairies, parce que ça concerne aussi les mairies, énormément de juges, notamment à cette époque, et des personnes qui travaillent dans la justice, ont été limogés, donc plus de 130 000 personnes. Et donc c'était une grande opération de purge politique, et qui était, dans un premier temps, officiellement dirigée contre les gulenistes, donc les rivaux. Erdogan lui-même, il vient de cette tradition, donc ses anciens et amis, contre donc ses rivaux politiques islamistes, et mais pas que, enfin c'était ça, et aussi bien sûr toutes les militants militantes kurdes et des syndicalistes. Des gens de la gauche, mais là la gauche vraiment au sens très 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 large, en l'occurrence là pas uniquement socialiste, communiste, révolutionnaire, mais vraiment jusqu'au voilà, des personnes qui défendent des droits de l'homme en Turquie, etc. Moi je connais personnellement des personnes qui, voilà, une copine institutrice, elle était syndicaliste, uniquement elle était dans les syndicats des instituteurs institutrices, elle a été limogée et au bout de 8 ans, elle attend toujours d'être réintégrée parce qu'elle fait recours à ces décisions qui sont toujours en cours.
Mais là, il n'y a plus d'ambition de la Turquie de se plier à des conventions internationales. Enfin.
On parle de cette période en Turquie en disant que c'est l'établissement vraiment de régime d'un seul homme. Donc vraiment, Erdogan, pendant cette période-là, réunit en son sein, en sa personne, tous les pouvoirs d'exécutif, mais pas uniquement. Donc là, il n'y a plus de distinction de toute façon entre l'exécutif et le juridique. Enfin, il regroupe énormément de pouvoirs. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des karekas, ce qu'on appelle les karekas. Donc en fait, il y a une gouvernementalité par décret qui entre qui commence pendant l'état d'urgence, donc à partir de 2016. Donc c'est par des coups de décret que le pays est géré. Et ces coups de, enfin ces décrets, là il y en a en deux premières années d'état d'urgence, il y en a 36 décrets. Bah, certaines justement servent à limoger des dizaines de milliers de personnes dans une seule nuit, et d'autres interdisent des émissions de télé, d'autres ferment les journaux, d'autres par contre, je sais pas, disent des trucs sur le règlement de pneus d'hiver. Ça peut aller de pneus d'hiver jusqu'à voilà, des limogeages et aussi des régimes de Kayoum qui s'est aussi entré en vigueur avec des décrets. Une des décrets importantes qui a poursuivi une fois que l'état d'urgence s'arrête et qui sont toujours en vigueur, et il y a une actualité la semaine dernière que j'aimerais parler très rapidement. Donc, ces trucs de Kayoum, c'est en gros le président lui-même nomme des administrateurs à la place des personnes élues. Ça, il y en a eu des dizaines pendant cette période. Et quand on parle des élus, on parle des maires particulièrement. Et les maires, bien sûr, les maires kurdes. Parce que, bien sûr, les élections parlementaires, etc., bon, il y a un certain nombre de députés kurdes dans le Parlement en Turquie, etc. Mais par contre, dans le territoire Bakur, dans Kurdistan turc, et bah, le parti kurde, on va dire, prend la grande majorité des voix. Donc du coup, quand il s'agit des municipalités, et en fait, les municipalités, à très grande majorité, sont gérées par les maires du parti kurde. Donc ça, c'est vraiment un problème pour l'État turc, parce qu'il faut empêcher les mairies. Voilà. Donc du coup, localement, c'est quand même le parti kurde qui gère. Voilà. Donc, et ils ont, grâce à ces décrets présidentiels, on appelle les décrets présidentiels qui ont valeur de loi. Mmh. C'est un peu comme ça que c'est dit. Et ils ont envoyé des administrateurs, c'est-à-dire le maire de élu a souvent quand même 90%, 70% des voix, hein, et ont destitué. Et à la place, il y a un administrateur nommé par le président qui désormais gère les mairies. Donc ça, c'était créé par un décret pendant l'état d'urgence et qui sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Et seulement la semaine dernière, il y a eu trois administrateurs pour trois villes kurdes, Mardin, Batman et un district de Şanlıurfa, qui étaient des maires du parti kurde, qui ont destitué. Et à la place, il y a eu des administrateurs. Et pour la première fois, un quartier d'Istanbul, et ça, je pense, c'est assez intéressant, parce qu'on voit bien que la gestion coloniale et la justice coloniale finit aussi par, un jour, atteindre le métropole, entre guillemets, en fait. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours les maires kurdes et les mairies en Kurdistan. Et bah, là, pour la première fois, la semaine dernière, c'était une mairie social-démocrate du parti kémaliste, le parti qui a fondé la République turque, quand même. Et voilà, traditionnel, enfin voilà, et tout à fait dans l'establishment de l'État turc, et qui a l'opposition, quand même les premières parties d'opposition en Turquie, et à Esenyurt, donc dans une mairie d'un quartier d'Istanbul. Lui aussi, c'est un professeur d'université, et qui est arrêté et envoyé en prison. Et apparemment, depuis 3 mois, il y avait une investigation. Il y a dans le dossier des écoutes et des surveillances qui datent d'il y a 10 ans. Et il est envoyé en prison et pour être membre de l'organisation terroriste, bien sûr. Et ils ont mis dans les dossiers des appels téléphoniques, enfin voilà, toutes sortes de choses qui datent d'instructions d'il y a, voilà, qui durent depuis il y a 10 ans. Mais quand j'ai dit un quartier d'Istanbul, c'est quand même 1,5 million voilà, on parle de ce genre de... Mardin, par exemple, c'est une ville d'1 million de personnes. Donc on parle de ce genre de nombre d'électeurs, électrices, etc. Et qu'il a été élu avec, pour le maire à Istanbul, avec 49% des voix. Donc voilà une des suites aussi de l'état d'urgence et de cette période d'après tentative de coup d'État. ce qu'on voit aussi à travers l'exemple de Ahmet Özen, donc ce professeur maire de Esenyurt qui est envoyé en prison, et ben on dit qu'il y a 10 ans d'enquête derrière. Donc la question est pourquoi à ce moment-là, maintenant, qu'on décide finalement que le dossier est complet et que c'est le moment de l'attaquer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on remarque de manière générale, parce qu'il y a une surveillance et de contrôle quand même généralisé qui fait qu'il y a des dossiers sur des personnes et qui sont petit à petit, qui se remplissent avec des nouveaux éléments. Et un jour, vous participez à des choses complètement légales, vous continuez votre travail syndical, votre travail de militant de telle association, de telle organisation légale. Et un jour, on vient avec un dossier, et dans le dossier, il y a la photo qu'on a prise il y a 3 ans, lors du 1er mai, il y a un enregistrement qu'on a eu quand vous avez fait une déclaration publique en direction de la presse concernant tel sujet, etc., etc. Donc il y a quand même une arbitraire aussi et une sorte de contrôle permanente et qui est faite de manière assez massive sur des milliers de personnes.
C'est-à-dire que n'importe qui a un militant un tant soit peu progressiste tout peut estimer que peut-être il y a un dossier contre lui qu'on pourra lui opposer à tout moment. Quoi.
Exactement, exactement. C'est ça qui crée justement cette ambiance comme de contrôle et des répressions politiques généralisées dont je parlais tout à l'heure.
Et du coup, la justice, plutôt que de servir de contre-pouvoir et à protéger chacune et chacun de l'arbitraire de l'État, participe totalement corps et âme à la répression, à l'immense répression collective qui a l'air d'avoir lieu. Quoi.
Tout à fait. Et par le fait que Erdogan, maintenant, de toute façon, il a tout le pouvoir. Et avec tous les limogeages dans le corps aussi de justice, avec voilà, les nominations... Maintenant, par exemple, pour donner juste un seul exemple, la Cour constitutionnelle qui est constituée de 15 juges, 12 sur 15 est décidée par Erdogan. Et c'est la seule cour qui existe en Turquie qui peut juger la conformité des décrets présidentiels avec la Constitution. Donc, vous voyez bien la situation.
Donc, lui, il juge que ces décrets, ils sont conformes.
Voilà, exactement.
En plus, il ne fait pas les choses à moitié, parce que mathématiquement, il aurait pu se contenter dans les 8.
Oui, et puis c'est un petit peu... Enfin, tout à l'heure, en fait, tu nous dis, Erdogan, où au bout d'un moment, il limoge des milliers et des milliers de magistrats. Mais il ne s'agit pas ici de considérer ou de dire que dans les années 2000, les gens disposaient d'un état de droit performant, non, etc. Hein, c'est juste une extension, comme ça, de la concentration des pouvoirs. Appelé ici en France par les médias français, quand on évoque la Turquie, on parle de démocratie illibérale. Je sais pas ce que ils ont comme problème avec le mot dictature, mais c'est un genre de démocratie un peu autoritaire, quoi. Mais ça reste une démocratie.
Je pense que c'est vraiment important de dire que déjà la Turquie n'a été jamais une démocratie. T'as jamais une démocratie, dans toute son histoire, en fait, n'a été jamais une démocratie, déjà. Une démocratie bourgeoise, comme on a pu connaître en Europe. Et après, en ce qui concerne la période Erdogan et ses dernières années, et là, oui, vraiment, on peut parler de dictature, de pouvoir d'un seul homme. En fait, voilà, après, on choisit le mot qu'on veut, mais oui, effectivement, on ne peut pas parler d'une démocratie.
Et alors pour ces centaines de milliers de personnes limogées, j'ai oublié le chiffre qui était effarant tout à l'heure, tu parlais de 150 000, autour de 150 000
personnes. Oui, plus de 100, oui.
Plus de 100 000 personnes limogées. Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que, par exemple, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme? Parce que ça, ce serait théoriquement, en tout cas, une possibilité. Sachant par ailleurs qu'il faut quand même bien signaler que ça fait maintenant un certain nombre d'années que la Turquie a l'air de s'asseoir sur son envie, son ancienne envie d'intégrer l'Union européenne.
Oui, je pense qu'en ce qui concerne l'adhésion dans l'Union européenne, ça c'est vraiment finito basta. On n'en parle plus, je pense qu'il n'y a plus aucune intention. Voilà, on est dans une autre situation géopolitique, des renouvelles reconfigurations, de l'impérialisme. Enfin, on ne va pas entrer dans tous ces sujets, mais bon, la Turquie est maintenant bien loin de la Turquie au début des années 2000, qui voulait à tout tout prix intégrer l'Union européenne, être dans ce camp, etc., etc. Donc on a bien loin de cette situation, donc qui fait aussi que effectivement les décisions de cours européen de droits de l'homme ne sont pas tellement respectées. Par exemple, je veux dire, dans le passé, ça a été un peu prise en considération, à peu près, voilà. Et mais alors que dans ces dernières années, il y a plusieurs exemples qui dit que, par exemple, une des décisions de CEDH en 2018 qui demande la libération immédiate de Selahattin Demirtas. Donc Selahattin Demirtas, c'est un élu, un député, et qui était aussi à la tête du parti kurde, et qui est inculpé donc pour des raisons politiques. Donc CEDH dit très clairement que il est inculpé pour des raisons politiques, il faut le libérer, et etc. Donc en fait, cette décision, le Conseil d'Europe vient il y a juste un an réitérer la demande d'appliquer la décision de CEDH à la Turquie, et la Turquie, en personne de Erdogan, il a déclaré devant toute la télé et le média turc que on n'appliquerait pas la décision, on n'a rien à foutre.
Alors, pour mémoire, hein, y a un ministre de l'Intérieur, il y a à peu près 6 mois, qui a déclaré publiquement qu'il n'appliquerait pas les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant de l'expulsion d'étrangers. C'était Gérald Darmanin. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi voir et mettre en parallèle tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a un ministre de la République en mars dernier, je crois, qui a dit, malgré les condamnations de la France, eh ben, il a dit, peu importe, moi, mon but, c'est de protéger les Français, ou je ne sais pas quelle autre chose. Mais on tombe dans des logiques là, qui sont inquiétantes et qui sont assez similaires.
Tout à fait, tout à fait. Et enfin, il y a deux situations, on peut dire, par rapport au CEDH et les changements plus récents du rapport de la Turquie aux décisions de CEDH. Et il y a des situations comme dans les cas de Selahattin Demirtas ou Osman Kavala, il y a, après le soulèvement en 2013 de Gezi, de la place Taksim, il y a eu aussi un très grand procès. Donc il y a plusieurs personnes qui sont en prison depuis 2017 pour ça, pour organiser un soulèvement contre le gouvernement, changer la constitution, enfin voilà, terrorisme, organisation en bande organisée, les actions illégales pour changer le régime, etc. Et là aussi, pareil, il y a des décisions de CEDH pour la libération immédiate de ces personnes qui ne sont pas prises en compte. Une autre situation, c'est comme par rapport, par exemple, au limogeage dont on parlait tout à l'heure, et tu as posé la question de est-ce qu'il y a des possibilités pour ces personnes limogées de plus de 130 000, je disais. Et ben, la Turquie a fait une ruse, on va dire ça comme ça, pour empêcher, parce que pour qu'une personne puisse saisir le cours européen, il faut que tous les recours internes au pays national soient épuisés. Donc ils ont ajouté une commission, ils ont créé une commission comme ça, un jour, une commission, je ne sais pas comment on le met ça, censé à vérifier des décisions prises pendant l'état d'urgence avec les décrets présidentiels. Donc une commission où les personnes peuvent, mais c'est une commission, hein, c'est voilà, constitué de différents, des députés, des différentes personnes. Et vu que cette commission existe et qu'il y a la possibilité pour des personnes de les saisir, et donc c'est pas possible d'aller au cours européen. Et continue encore, parce que du coup, il y a quand même un nombre de dossiers qui doit être traité par cette commission incroyable. Et pour l'instant, ça court encore. En fait, il y a énormément, voilà, des milliers de personnes qui attendent la décision de cette commission, dont l'amie dont je vous ai parlé, par exemple, tout à l'heure, au bout de 8 ans, elle attend toujours la décision de cette commission. Et qu'elle est... enfin voilà, elle a perdu son travail. Ces personnes sont, il faut savoir aussi, qu'ils sont quand même plus ou moins blacklistées. Il n'y a aucune possibilité de pouvoir trouver du travail parce que leur numéro de sécurité sociale s'affiche quand ils vont, ils demandent un travail quelque part. Enfin, voilà, c'est un peu le, c'est un peu la mort sociale, quoi.
Mais formellement, ils ont un recours.
Voilà, formellement, ils ont un recours, donc tout va bien pour l'Europe.
Comme pour les procès, formellement, ils ont un avocat. Formellement, ils ont un recours après la décision de première instance. On voit bien qu'il y a tout un tas de garanties formelles qui sont en apparence respectées.
Ouais, tout à fait. Après, voilà, les possibilités formelles et même le respect de certains nombres de règles formelles. Et à côté, on le met cet état de contrôle et de répression juridique et d'incarcération massif. Et bah voilà, on s'est dit bon, ok, d'accord, mais elle est où la justice?
Düşman muratsız O duvar duvarınız O duvar duvarınız O duvar duvarınız Söz gelir bize fır O duvar duvarınız O duvar duvarınız O duvar duvarınız Söz gelir bize fır
Toujours sur Tapage 92.2 sur Canal Sud et on est encore avec Zeynep qui nous parle de la justice en Turquie. Et pour finir cette émission, on va revenir sur la situation dans les prisons turques.
Oui, je pense qu'à tout à l'heure tu as donné un peu les chiffres les plus récents concernant le nombre de prisonniers et prisonnières.
371 000.
Voilà. Et bah, parmi ces personnes, bon, peut-être dire que un bon nombre sont des prisonniers et prisonnières politiques. Donc on pense, même s'il n'y a pas des chiffres, on va dire, officiels ou légaux, mais quand même l'État turc se vante du nombre de terroristes. Et qu'il a donc, il donne des chiffres pour des organisations terroristes. Voilà, tel nom, par exemple, pour des personnes pour l'appartenance à PKK, je pense que c'est plus de 10 000. Donc il y a d'autres organisations, les goulénistes. Bon. Et on estime que c'est entre 60 et 70 000 prisonniers, prisonnières politiques parmi ces 370 000 personnes. Je pense que c'est important de se rappeler parce que ça correspond à peu près à l'ensemble des prisonniers et prisonnières en France. Après, 1453 parmi ces prisonniers et prisonnières politiques sont condamnés à la perpétuité. Donc, condamnés à la perpétuité et certains nombres étaient condamnés à la peine de mort. Mais comme la peine de mort est annulée au début des années 2000 pour pouvoir être en harmonie avec l'Union européenne, donc certains nombres sont transformés de peine de mort en perpétuité. Au début des années 90, un bon nombre de personnes, donc beaucoup de militants et militantes kurdes, entrent en prison et prennent justement soit des peines de mort, soit des perpétuités. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans pour ces milliers de personnes qui sont condamnées et qui ont passé plus de 30 ans de leur vie en prison. Et donc, ils sont libérables. Au bout de 30 ans, ils sont libérables sous contrôle judiciaire et beaucoup sont très, très âgés. Et ce qui se passe, donc ce qu'on constate et qui sont dénoncés beaucoup par des associations des droits humains des observatoires aussi des prisons en Turquie, c'est pour des raisons complètement arbitraires et fallacieuses. Ces personnes qui ont passé 30 ans de leur vie en prison sont retenues encore en prison alors qu'ils sont libérables. Et c'est uniquement sur la décision de la direction pénitentiaire. Donc la direction pénitentiaire décide qu'ils vont reconduire encore 3 mois, encore 3 mois, encore 6 mois, la détention. Voilà, c'est aussi une situation particulière, on va dire, qui concerne quand même un nombre important de prisonniers et prisonnières politiques.
Il faut quand même remarquer que sur ces centaines de milliers de personnes qui sont emprisonnées, voilà, il y a un nombre considérable de prisonniers et de prisonnières politiques, comme tu le disais, Zeynep. Il y a aussi, plein de prisonniers de droit commun. La Turquie a connu, mais par ailleurs, exactement comme la France, l'Angleterre, les pays européens, évidemment les États-Unis, une augmentation très, très, très importante de personnes incarcérées depuis les années 2000, pas pour des raisons politiques, pour des raisons de répression pénale. On ne peut plus ordinaire. Quand je parle de prisonniers politiques, c'est une distinction qui existe en Turquie et qui est très opérante, mais pas dans le sens où on pense, dans le sens où c'est pas parce qu'il y a les accords internationaux demanderaient à ce qu'ils soient mieux traités que les prisonniers de droit commun.
Alors que c'est exactement le contraire. Donc justement, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que ce sont les prisonniers, prisonnières politiques qui ont des conditions de détention beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles et restrictives en termes de droits par rapport aux autres prisonniers. Pour donner un seul exemple, par exemple, pour le droit à un coup de fil, une communication téléphonique, c'est 1 heure, je pense, par semaine pour les autres prisonniers, alors que c'est 10 minutes pour les prisonniers et prisonnières. Pareil pour le parloir, voilà. Et en plus, sans parler des situations qui concernent surtout les militants et militantes kurdes de d'éloignement du Kurdistan. Donc, alors que la personne doit passer son peine dans une prison en Kurdistan, on l'envoie, comme on a vu avec la justice coloniale française, avec les militants militantes Kanak, par exemple, de Kanaki, ils sont envoyés en France, en métropole. Et la Turquie fait exactement la même chose en ce qui concerne les militants militantes kurdes. Pour empêcher notamment le droit, la possibilité de la proximité avec la famille, avoir un soutien familial, social, militante, etc.
Et on rappellera aussi que depuis la tentative de coup coup d'État manqué de 2016, les prisons font partie de ces institutions qui ont pu être régies par les fameux décrets-lois du tout-puissant Erdogan.
Tout à fait, tout à fait. Comme à peu près tout. En fait, maintenant, tout est un peu géré par les décrets présidentiels en Turquie.
Et les prisons ont connu en Turquie un grand changement au début des années 2000, parce qu'avant, les prisons étaient plus collectives, les prisonniers étaient dans des prisonniers prisonnières étaient dans des grands dortoirs d'une trentaine de personnes. Et là, il y a eu des changements majeurs qui font d'ailleurs écho à ce qui se passe en France aussi, qui s'est passé en France, en Angleterre, dans plein de pays, mais plus tôt. C'est-à-dire que ces prisons, avec des dortoirs collectifs situés plutôt au centre-ville, sont fermées et sont ouvertes à la place des prisons à l'extérieur, très isolées, avec un encellulement individuel ou à deux et trois. Et tout ça, on imagine bien, empêche un petit peu l'organisation collective.
Il casse les solidarités.
Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est une manière de casser les isolés. En fait, c'est l'isolement. Enfin, c'est vraiment le forme isolement qui gagne vraiment du terrain avec les créations des différents types, du type F, haute prison d'haute sécurité, type L, etc. Mais le point commun quand même, au-delà de cette diversité des formes des prisons, c'est l'isolement qui augmente et les dortoirs devient rare. Et oui, c'est effectivement pour empêcher la solidarité et une vie réelle, voilà, malgré l'emprisonnement pour les prisonniers prisonnières politique, mais qui continue quand même, enfin ces personnes-là continuent à lutter, parce qu'il y a toute une tradition en Turquie de lutte, de résistance depuis les prisons, et les prisons sont considérées comme un lieu aussi de lutte dans l'histoire turque. Il y a eu beaucoup d'exemples, tant du côté de mouvements kurdes que du côté de la gauche révolutionnaire, des grèves de faim, des résistances depuis les prisons. Donc je pense que ce qui a été vraiment voulu, enfin ce qui est sûr, ce qui a été voulu, c'est justement casser aussi cette possibilité de résister depuis la prison. Il y a un truc à ajouter sur les prisons. C'est un peu, enfin, au même moment, c'est encore pendant le gouvernement, sous le gouvernement Erdogan, dans les années 2010, qu'on a commencé à faire travailler les prisonniers et prisonnières. Donc il y a des usines prisons qui sont créées. Et ces personnes produisent, il y a des trucs de manufacture, enfin il y a toutes sortes de productions qui sont faites, bien sûr, soi-disant sur le volontariat, et c'est présenté comme des formations professionnelles proposées aux prisonniers et prisonnières, alors que c'est quand même de fait obligatoire. Bien sûr, ça concerne uniquement les prisonniers et prisonnières de droit commun. Ça ne concerne pas les prisonniers politiques.
C'est vraiment à cette époque-là qu'on assiste à peu près en 2006-2007 à une réorganisation du système carcéral turc, à l'image en fait quand même de ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi en France, où on parle de prison campus, où il va y avoir des grands centres pénitentiaires, finis les dortoirs avec de l'encellulement individuel ou quasi presque, du travail et des dortoirs pour les surveillants, enfin qui vivent des logements de fonction, pardon, plutôt, qui vivent sur place, et toute une activité économique en rapport avec la prison, mais quasi des villes-prisons, quoi, ouais, qui sont au milieu de nulle part, ou en tout cas loin des grands centres urbains.
Bah, ça correspond bien à la dystopie du gouvernement Erdogan. Donc je pense que c'est un bon mélange du capitalisme. Et c'est-à-dire de la consommation, non ? En fait, voilà, c'est en fait presque comme une centre commerciale en même temps. Et donc, on produit, on consomme et on est enfermé.
Et on
donc, et on surveille, on est contrôlé, on est surveillé, on n'a aucune liberté. Donc, ça correspond bien au modèle quand même qu'il cherche à mettre en place, je pense, ces prisons campus dont tu parles.
Oui, bon, on pourrait encore en parler pendant longtemps et tu seras la bienvenue pour revenir quand tu veux, évidemment. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va essayer de mettre en lien sur le site de Canal Sud tout un tas de ressources documentaires que tu voulais partager. ainsi que le nom, les références des morceaux de musique qu'on a passé et qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure. Merci.
Merci à vous. Merci.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat, monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Da da di 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 da 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 da